Théophile Gautier, Zigzag, Venise. La plus singulière ville du monde à coup sûr, c'est Venise, c'est Amsterdam de l'Italie. On l'a décrite mille fois, elle est toujours aussi nouvelle. Qui a vu Vicenza peut se faire une idée de Padoue. Rome ressemble à Florence, Paris à Londres. Venise ne ressemble qu'à elle. Ce n'est ni une ville gothique, ni une ville romaine. C'est quelque chose qu'on ne saurait définir. Cette architecture étrange et fantastique n'a rien de commun avec celle que vous connaissez. Ces belvédères sur le sommet des toits, ces cheminées en forme de colonnes et de tours, ces grands palais de marbre aux fenêtres en arcade, aux murs bariolés de fresques et de mosaïques, aux frontons hérissés de statues, ces églises avec leurs clochers de formes si variées, dômes, coupoles, flèches, aiguilles, tourelles, campaniles, ces ponts aux arches sveltes et hardies, tout chargés de sculptures, ces piazzas pavées en marqueterie, ces canaux qui se croisent en tous sens, doublant dans leur clair miroir les maisons qui les bordent, ces tentes de toile rayées où se tiennent les marchands, ces poteaux armoriés qui servent à barrer les barques des nobles, ces escaliers dont la mer baigne les dernières marches, ces embarcations de toute grandeur, yachts, felouks, chébecs et gondoles, qui filent silencieusement sur l'eau endormie des lagunes, ces costumes grecs, turcs, arméniens, que le commerce du Levant y attire, tout cela en face de l'Adriatique, sous le ciel de Paul Véronèse, forme un spectacle extraordinaire et magnifique que l'on ne peut rendre avec ses paroles et que l'on peut à peine imaginer. Canaletti, Bonington, Daguerre et son diorama, tout admirables qu'ils sont, restent encore bien au-dessous de la réalité. Qu'y a-t-il de plus beau au monde que l'aspect de la Piazza di San Marco en venant du côté de la mer? À gauche, le Palazzo Ducale, avec sa façade de marbre rouge et blanc, disposée en petits carreaux, sa ceinture de colonnettes, ses trèfles et ses ogives, ses gros piliers trapus dont le fût plonge dans le sol, sa frise crénelée, ses huit portes, son toit de cuivre, ses figures symboliques de Bartolomeo Bono, ses lions ailés, la griffe sur leurs livres, son pont des soupirs, son luxe sourd et sombre, qui le fait à la fois ressembler à une forteresse et à une prison. À droite, la bibliothèque publique du dessin de Sansovino, avec son double cordon de colonnes et d'arcades, sa balustrade à jour, sa ligne de statues mythologiques, ses enfants nus soutenant au-dessus de la corniche des feuillages et des festons. Au milieu des deux colonnes de granit africain d'une grosseur et d'une hauteur prodigieuses qui servent de piédestaux, l'une à une statue de Saint Théodore, l'autre à un lion ailé de bronze, la tête tournée vers la mer comme pour dénoter qu'il veille à son empire. C'est entre ces deux colonnes qu'ont lieu les exécutions qui se faisaient autrefois sur la Piazza di San Giovanni di Vragola. Le doge Marino Faliero, battu par la tempête, fut forcé de prendre terre en cet endroit le jour de son installation, et cela fut généralement regardé comme de mauvais augure. On sait ce qui en arriva. Au fond, la Chiesa Ducale di San Marco, le plus étonnant édifice qui se puisse voir. Ce n'est pas une cathédrale gothique, ce n'est pas une mosquée turque, encore moins une métropole grecque. Et cependant, c'est tout cela. Ces aiguilles et ces pignons évidés à jour sont gothiques. Ces trois coupoles de plomb, qu'on prendrait pour des casques, rappellent les mosquées orientales. On est tout surpris d'y voir une croix. Ce grand dôme est antique, ce plein cintre est romain, cette tribune qui fait le tour de l'édifice, ces quatre colonnes qui portent sur une seule, Ces cinq arches brodées et fleuronnées sont byzantines ou mauresques. C'est un incroyable mélange de pierre, de marbre, de porphyre, de briques, de granit, de mosaïques et de fresques, de dorures et de statues, d'arabesques folles et hardies, de piliers ventrus et de colonnes frêles, qui n'a pas d'exemple au monde et qui n'en saurait avoir. Il faudrait un volume pour décrire l'intérieur. On dirait une caverne fouillée dans le roc vif avec des stalactites d'or et de pierreries. Les quatre fameux chevaux de bronze caracolent sur le portail. La Torre dell'Orologio, bâtie en 1496 sur les dessins de Carlo Rinaldi, avec son cadran, qui outre les heures marque les mouvements de la lune et du soleil, avec sa madone dorée, ses anges en adoration, son lion sur champ d'azur étoilé, son doge à genoux, sa cloche où deux jacquemarts représentant des maures frappent l'heure de leur marteau au grand réjouissement de la multitude. Les trois grands étendards, supportés par des piédestaux de bronze d'un travail exquis d'Alessandro Leopardi, auxquels les jours de fête on append trois flammes de soie et d'or qui se déroulent gracieusement à la brise de la mer. Le campanile, tour d'une élévation prodigieuse à qui toutes les clochers de Venise ne vont qu'à la cheville. Elle est plus haute que la tour de Bologne et d'Argentine. L'ange de cuivre creux qui lui sert de girouette a 14 pieds de haut. On y monte par une rampe douce et sans escalier. Un immense panorama se déploie à vos yeux. Un ciel clair et profond vous environne. L'horizon s'étend sans fin devant vos pieds, des côtes plates et des vases d'une teinte cendrée. La mer bleue et transparente forme les bords du cercle, et des toits de toutes les couleurs, de toutes les formes, chatoient au ciel dans le fond du gouffre. Le Palazzo Ducale de la Zuecca, les Procuratori, la Chiesa di San Marco se détachent de ces îlots de maisons. Le clocher de San Moïse, l'aiguille rouge de San Francisco della Vigna, les deux tourelles de San Giona semblent se hausser pour vous atteindre. Plus loin, la Dogana avance sa pointe. San Giorgio, toute fière de son église de Palladio, de son dôme et de sa tour, se découpe brillante et verte dans un archipel de petites îles. Vous voyez les prames, les polacs, les brigantins qui font quarantaine à San Servolo ou qui voguent à pleine voile sur le grand bassin. Les canaux intérieurs dont vous ne pouvez apercevoir l'eau coupent de sillons profonds les masses d'architecture groupées au pied du campanile. Du reste, ce tableau est muet. Cette rumeur sourde de vagissement d'une grande ville qu'on entend des tours de Notre-Dame ou du dôme de Saint-Paul, ne frappe pas votre oreille. Aucun bruit ne se fait entendre. Venise en plein jour est plus silencieuse que les autres capitales dans la nuit. Cela tient à l'absence des chevaux et des voitures. Un cheval est un phénomène à Venise. Aussi Byron et ses chevaux, qu'il domptait au Lido, était-il pour les Vénitiens un grand sujet d'étonnement? Mais voici le revers de la médaille. Venise est une ville admirable, comme musée et comme panorama, et non autrement. Il faut la voir à vol d'oiseau. L'humidité y est extrême. Une odeur fade dans les chaudes journées d'été s'élève des lagunes et des vases. Tout y est d'une malpropreté infecte. Ces beaux palais de marbre et d'or que nous venons de décrire sont salis par le bas d'une étrange manière. L'antique Bucentaure lui-même, que les Français ont brûlé pour en avoir la dorure, n'était pas, s'il en faut croire les historiens, plus à l'abri de ces dégoûtantes profanations que les autres édifices publics, malgré les croix et les rispettos dont ils sont couverts. À ses palais s'accroche, comme un pauvre au manteau d'un riche, d'ignobles masures moisies et lézardées, qui penchent l'une vers l'autre, et qui, lasses d'être debout, s'épaulent familièrement au flanc d'un granit de leurs voisins. Les rues, car il y a des rues à Venise, bien qu'on n'ait pas l'air de le croire, sont étroites et sombres, avec un dallage qui n'a jamais été refait. Des vieux linges et des matelas sèchent aux fenêtres. Quelques figures hâves et fiévreuses se penchent pour vous regarder passer. Nul métier bruyant, nulle animation. Quelques rares piétons glissent silencieusement sur les dalles polies. Hors sa marque, tout est mort. C'est le cadavre d'une ville et rien de plus. Et je ne sais pas pourquoi les faiseurs de Libretti et de Barcarolle s'obstinent à nous parler de Venise comme d'une ville joyeuse et folle. La chaste épouse de la mer est bien la ville la plus ennuyeuse du monde, ses tableaux et ses palais une fois vus. Les gondoles dont ils font tant de belles descriptions sont des espèces de fiacres d'eau qui ne valent guère mieux que se taire. C'est un cercueil flottant, peint en noir, avec une dunette fermée au milieu, un morceau de fer hérissé de 5 à 6 pointes à la proue, et qui ne ressemble pas mal aux chevilles d'un manche de violon. Un seul homme fait marcher cette embarcation, avec une rame unique, qui lui sert en même temps de gouvernail. Quoique l'extérieur n'en soit pas gai, il se passe quelquefois à l'intérieur des scènes aussi réjouissantes que dans les voitures de deuil après un enterrement. Les gondoliers sont des marins butors qui mangent des lasagnes et des macaronis et ne chantent pas du tout de Barcarolle. Quant aux sérénades sous les balcons, aux fêtes sur l'eau, aux bals masqués, aux imbroglios d'opéra comique, aux maris et aux tuteurs jaloux, aux duels, aux escalades, aux échelles de soie, aux grandes passions, aux grands coups de poignard. Cela n'existe pas plus là qu'ailleurs. Voici la manière dont vivent les habitants. J'entends ceux qui ont le moyen de vivre. Elle est la plus monotone de la terre. Ils se lèvent à midi, promènent leur désœuvrement par la ville jusqu'à 3 heures, dînent fort sobrement, font la sieste, s'habillent et vont au casino jusqu'à 9 heures. Puis à l'opéra, où personne n'écoute, attendu que les Italiens sont le peuple le plus musicien de l'Europe, puis au casino, où ils prennent des glaces, assis tranquillement devant de petites tables, parqués chacun dans leur café respectif. Les nobles avec les nobles, les courtiers avec les courtiers, les juifs avec les juifs, les retirate, femmes sur le retour, avec les retirate, les fringantes, femmes à la mode, avec les fringantes, ainsi de suite. Car à Venise, les classes ne se confondent pas. Tout ce monde attend le jour pour rentrer chez soi et se coucher. Les Italiens n'ont pas le sentiment du foyer. Ils ne comprennent pas le bonheur de la maison. Ils vivent entièrement dehors. Les anciens nobles végètent obscurément dans quelques coins de leur palais, sous les combles, mangeant du macaroni au fromage avec leurs valets, à demi vêtus de guenilles pour ménager leurs habits neufs, ne lisant pas, ne s'occupant de rien. Chaque femme, comme dans tout le reste de l'Italie, a son cicisbeo ou petito qui l'accompagne à la messe, à l'opéra, au casino. Cela au vu et au su du mari, qui ne s'inquiète pas le moindre moment du monde, et sert souvent de malédiateur dans les querelles qui surviennent entre eux. Parlez-nous après cela de la jalousie italienne. Lire, écrire, tant bien que mal, faire un peu de musique, voilà à quoi se réduit l'éducation des femmes. Peu vives et peu spirituelles, elles n'ont aucune ressource pour la conversation. Le sigisbéisme n'est pas aussi moral au fond qu'il le paraît d'abord. C'est une espèce de mariage de cœur auquel elles sont ordinairement plus fidèles qu'au premier. Il est bien rare qu'on se quitte. Quand il n'y a plus d'amour, l'amitié le remplace. Et quand il n'y a plus d'amitié, l'habitude en tient lieu. On ne saurait rien voir de moins romanesque et de plus bourgeois. Quant à la beauté des femmes italiennes, dont nos jeunes modernes se sont enthousiasmés sur la foi de Byron, elle n'a rien de bien extraordinaire. Malgré la dénomination générale de beau sexe, en Italie comme ailleurs, les laides sont en majorité. De grandes têtes droites, un peu trop fortes pour le corps, et tout à fait classiques, un coloris mat et sans transparence, la gorge mal faite et la taille épaisse. Ce qu'elles ont de plus beau, ce sont les mains et les épaules. Quoi qu'en dise le noble poète, qui probablement avait ses raisons pour cela, les Anglaises l'emportent sur elles de toutes les manières. Je ne comprends pas, guère non plus, l'admiration de nos gothiques pour cette ville. Il y a très peu d'ogives. À l'exception du Palazzo Ducale et de San Marco, toutes les fabriques sont de cette architecture que l'on ne fait pas faute ici d'appeler roscocotte et perruque. L'ionique y abonde. Le corinthien y est en grand honneur. Le dorique n'y est pas mal vu. Mais le toscan et le composite se carrent sur toutes les façades et quelquefois tous ensemble sur la même. Les églises sont inondées de jour, enjolivées de marbre et de couleurs, enluminées de fresques. L'or y brille de toutes parts. C'est un luxe mondain, une coquetterie profane, toute différente de la majestueuse gravité des cathédrales du Moyen-Âge. Enlever l'autel, cela aura l'air d'un salon, d'une galerie de tableaux. Ces anges seront des amours, cette Vierge une Vénus, ces saintes des grâces. La piété des Italiens est toute de surface. Une Madone mal peinte aura peu d'adorateurs. Les saints vieux et barbus ne font pas fortune auprès des femmes. Le Saint-Michel du Guide à Rome est célèbre par les passions qu'il a inspirées. La plus petite église de Venise est riche en tableaux de grands maîtres. Paul Véronèse, Tintoret, Titien, le vieux Palme, le Flamingo, le Cavalier Liberi, Alessandro Turchi, Alienze Malombra, Giovanni Bellino, Diamantini, Giambattista da Caniglio, ont tous plus ou moins contribué à embellir de leurs principaux pinceaux les dômes, les stanze, les scuole, les squatres, les palais et les chapelles. Les sculpteurs ne sont pas non plus restés en arrière. Andrea Riccio de Padoue, Sansovino, Alessandro Vittoria, Bartolomeo Bono, Danese, Niccolo dei Conti et cent autres ont couvert de statues et de bas-reliefs tous les monuments publics. Il y a à Venise 500 ponts. Celui de Rialto, d'une seule arche tout de marbre, avec deux rangs de boutiques et des bas-reliefs représentant des sujets religieux, par Girolamo Campagna, est un des plus connus. Beaucoup d'autres ne lui sont pas inférieurs en hardiesse et en élégance. Parmi ces 300 églises, il y en a une foule dont on ne parle pas et qui mérite cependant qu'on en fasse mention. La Madonna dei Miracoli, dont la façade est ornée de porphyre et de serpentine, et où l'on voit l'image de Notre-Dame, sculptée par le célèbre Pircolette. San Giacomo di Rialto, une des plus anciennes de Venise. Il y a 5 autels, et sur le plus grand, fait de marbre blanc, est placée une statue de Saint-Jacques par Alessandro Vittoria. L'autel de Saint-Antoine est embelli de colonnes de marbre de couleur et l'image du saint en bronze est de Girolamo Campagna. San Rocco, la statue du saint est de Bartolomeo Bergamasco. Deux autres de Saint-Sébastien et San Pantaleone de Mocha. Le tableau d'autel représentant l'Annonciation a été peint par Francesco Solimento de Naples. Les autres peintures sont de Pordenone, du Tintoret, de Titien, de Vivarini et d'Antonio Fumiani. San Gimignano, la Maddalena, Santa Maria, Zomenigo sont dits d'attirer l'attention de l'artiste et du voyageur. Les San Giovanni et Paolo, par la Scuola di San Marco, possèdent 15 hôtels. Le principal est un des plus beaux et des plus majestueux de la ville. Il est fait de marbre fin avec un tabernacle élevé sous une arche portée par 10 grandes colonnes et 2 anges sur les côtés qui ont chacun dans la main une cassette dorée qui contient les reliques de Saint Jean et Saint Paul. La chapelle de Notre-Dame du Rosaire vaut qu'on y fasse attention. L'hôtel est isolé avec une coupole soutenue par 4 colonnes de marbre précieux. La statue de la Vierge est d'Alessandro Vittoria. Quelques autres de Girolamo Campagna. Les bronzes de la chapelle de Dominique ont été fondus par Mazza de Bologne. Il faudrait une page rien que pour écrire les noms des artistes célèbres dont et y admire des ouvrages et des personnages illustres dont les mausolées et les épitaphes couvrent les murs et le pavé. Le Palazzo Ducale, les Scuole, les Palais Germani, Pisani, Rezzonico et Grani renferment en tableaux et en statues d'innombrables richesses que le défaut d'espace nous empêche de décrire et d'apprécier. Nous ne parlerons donc pas de l'escalier des géants, avec ses 2 colosses de Sansovino, des statues d'Adam et d'Ève d'Andrea Riccio, des 2 puits de bronze ornés d'arabesques et de figures par Niccolo dei Conti, et de toutes les merveilles du Cortile, ni de la gueule de lion, qui dépouillée maintenant de ses terreurs mystérieuses, ressemble à s'y tromper à une boîte aux lettres, ni du conseil des 10, ni des seigneurs de la nuit, ni de tout cet attirail des francs juges et d'inquisiteurs dont la République sérénissime aimait à s'entourer. D'ailleurs, la domination autrichienne a remplacé tout cela, et maintenant c'est un officier allemand, un Tedesco, qui épouse la mère. Et pourtant, rien n'est changé à Venise, car c'est une chose digne de remarque. En Italie, on n'a rien bâti depuis 300 ans. Elle a conservé sa physionomie du XVe siècle. Pas une construction nouvelle ne vient faire dissonance. Ce luxe des habitations fait un singulier contraste avec la misère des habitants. Ce sont des résidences royales occupées par des gueux. C'est comme si une famille ruinée était forcé, faute de se pouvoir loger ailleurs, de garder la maison de ses pères, jadis riches, et de courir en guenilles et nu-pieds par les beaux appartements dorés et couverts de tableaux. Le confort est ce qui manque absolument à Venise, ville bâtie dans un autre temps, pour d'autres mœurs et d'autres usages. Les mœurs et les usages s'en sont allés, la ville reste. Et ceux qui n'y sont pas, de quoi la refaire. Venise, maintenant, n'est plus qu'une admirable décoration, un beau sujet de diorama. Tout y est sacrifié à l'extérieur. Artiste, pendant qu'elle est encore debout, et dans quelques temps d'ici, ce ne sera plus qu'une ruine immense, au milieu de marais méphitiques, praticables tout au plus pour les poissons. Allez, copiez-moi toutes ces façades, dessinez ces statues, faites des croquis d'après ces tableaux. Puis quand votre mémoire sera pleine et votre album couvert d'un bout à l'autre, si vous voulez garder votre illusion, suivez mon avis, partez vite, et ne revenez plus, et vous croirez avoir fait un beau rêve.